mouillé.
Jusqu'au mot.
Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive pour sauvegarder une part d'oralité de la côte orientale.
All right. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes nombreux et que c'est pas juste les gens qui nous connaissent, qui nous écoutent présentement ou qu'on va faire des petits, éventuellement, pas des vrais petits, là. On veut
non,
avoir des
on
nouveaux...
fera pas de vrais petits.
Pas moi et Georgette. De toute façon, on a une grosse. Une grosse fenêtre de plexiglas entre nous deux qui compliquerait
l'expérience.
la chose. Donc, en fait, ce que je disais, bienvenue tout le monde à cet épisode, deuxième épisode du podcast de Ancrage. Et c'est un épisode assez important parce que le dossier, pas le dossier, mais la contrainte ou le projet derrière ce numéro-là, c'est probablement le projet à date le plus ambitieux qu'Ancrage a fait, qui s'appelle Faire communauté. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais d'abord, comment vas-tu, ma belle Georgette? Ça fait longtemps qu'on s'est vu.
Je vais très bien.
Je pense à nos ancêtres entremêlés. Le pays en est habité. Comme les poètes, j'aime à penser que nous sommes sauvages. La terre, les hommes, le vent, nos rives, les roses, l'eau, le sel, les dunes, la lumière, nos forêts, l'espace. Tes yeux se posent sur moi. Tu me traques comme au temps de la chasse. Alors seulement, je sais que tu me respectes. Je recoiffe mes rêves de lichen. Je rallume les rochers du monde.
C'était Brigitte Lavallée.
Moi, je suis originaire du Québec, donc quand je suis arrivé ici, je connaissais le Nouveau-Brunswick comme étant le Nouveau-Brunswick et non comme une multitude d'îles séparées par des bastions anglophones, règle générale. Donc, pour moi, c'est un projet qui est hyper éclairant sur comment voir le Nouveau-Brunswick en soi. Toi, Georgette, t'es de la Nouvelle-Écosse.
Oui, de la Nouvelle-Écosse. Ça fait que moi je savais ou j'étais conscient du... La multiplicité, finalement, comme il y a, tu sais, le nord est différent, le sud-est, puis à l'intérieur même du sud-est, c'est même Cook, puis Moncton, puis nanana, fait que ça finit plus, là. C'est complexe, tout ça.
C'est vraiment une situation particulière aussi, oui. D'avoir un lieu où, en principe, règle générale, on s'attend à ce qu'une province bilingue soit géographiquement divisé bilinguement parlant.
Ouais.
Comme par exemple, l'est de la province aurait été francophone,
oui.
Et l'ouest aurait été francophone. Donc, dans ma tête, c'est un peu, il y avait un découpage géographique qui devait aller avec la langue. Mais c'est ça qui est étrange ici, c'est que c'est pas le cas. C'est des noyaux, des îles francophones entourées d'anglophones. Parfois, c'est l'inverse, des îles, des îlots anglophones entourés de francophones. Et tout ça, ce qui rend l'idée des deux solitudes un peu étrange. Pour moi, parce que du Québec, on le voit plus, parce que tu peux vivre 100% en français sans aucun problème si tu habites un peu plus loin de Montréal, là, mais si tu habites ailleurs qu'à Montréal, tu peux vivre en français tout le temps. Alors l'autre, celui qui fait l'autre solitude, il est géographiquement ailleurs
c'est ça.
Alors qu'ici, il est séparé par une frontière, alors qu'ici, c'est pas, il y a forcément...
Une cohabitation, et ça, tout le monde vit ensemble.
Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Casey. Je suis impliqué à la revue Ancrage depuis, je crois, 2013 et je suis au comité de rédaction. À vivre au Nouveau-Brunswick, on s'aperçoit, OK, ben nous, les francophones, la plupart des francophones, on comprend aussi l'anglais, donc on peut lire les textes des auteurs du Nouveau-Brunswick. Mais l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. Quand tu es anglophone au Nouveau-Brunswick, au Canada, tu ne comprends pas souvent la langue française. Puis c'est normal, c'est la vie qu'on vit au Canada. Puis on s'est dit, pourquoi pas essayer de créer des rapprochements entre les communautés. Au Nouveau-Brunswick, on va commencer avec cette province-là, avec un projet de rapprochement des auteurs. On s'est retrouvé avec le numéro 17, Faire communauté, ou en anglais, Creating Community, ou en Mi'kmaq, Well, Ma, Lukutiak. Donc, c'est un projet d'édition en trois langues, français, anglais et Mi'kmaq, qui présente le travail de 12 auteurs, que sont Phyllis Grant, Mohamed Al-Digale, Paul Bossé, Elisabeth Blanchard, Lee Thompson, Raymond Sewell, Brigitte Lavallée, Beth Pounding, Chidi Petitjean, Sébastien Bérubé, Shelby Sapier et Gerard Collins. On leur a commandé chacun un texte avec comme thème la communauté. Donc c'est un thème qui est extrêmement large, vaste, qui veut dire plein de choses, qui veut rien dire aussi en même temps. Mais 12 auteurs ont décidé de relever le défi puis de créer un nouveau texte. Ces nouveaux textes-là ont été rassemblés autour d'un spectacle qui a été créé avec l'aide de Philippe-André Colette. Et ce spectacle-là a été présenté à 6 reprises au Nouveau-Brunswick.
Voici Sébastien Bérubé.
Ils ont accroché des hameçons à des offres d'emploi pour attraper les honnêtes travailleurs. Il paraît que chaque fois qu'on coupe un arbre, une espèce disparaît. Les hommes ont commencé à se nourrir comme des chensas la même année. Ils ont bâti des montagnes où il n'y en avait pas, puis creusé des fossés où il y en avait, pour punir tout ce qui ne savait pas marcher à leur rythme. La même année, la faune s'est lancée sur lumière du troc. Ils ont forgé des ciels de nuages cadenassés, puis le vent s'est mis à répandre de fausses promesses. C'est plus simple d'appuyer sur le piton l'âme raffinée. La même année, le prix de la conscience a chuté au galon. Ils ont habillé la terre de vêtements aux poches trouées. Ils se bâtissent des églises qui boucanent. Des mains de père ont oublié celle de leur fils la même année. L'héritage, ça roule plus vite qu'une scie. Ils ont souillé la cour pour que nos enfants ne puissent plus y jouer, pour leur faire croire que la vie éternelle, ça se compte en zéro. Les épines de la mort ont enclenché leur communion la même année, puis c'est nous autres qu'ils ont plantés. Ils ont monté de grands murs d'envie pour que les communautés ne puissent plus se regarder dans les yeux. On raconte qu'on a remplacé le Notre Père par employeur dans nos prières la même année.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Raymond Sewell. Mon nom autochtone, c'est Bibukwesmadlaw. Mon chien vient d'une place qui s'appelle Winnipegjuwik. C'est proche de Bathurst, Acadie Bathurst. J'ai enlevé en Acadie. J'aime beaucoup les interactions entre les communautés à cette place. J'arrive maintenant à Tibouctouc, Halifax. Je visite avec ma famille. Je suis un professeur à Saint Mary's University maintenant. J'ai enseigné des élèves en anglais, puis aussi le worldview autochtone.
I want to die in upstate New York, somewhere in the Adirondacks, left loosely out in nature. I want to look out at a pastel sunset setting over the mountains in cool, sweeping blues and pinks, rich in evergreen. I want to hover over Fulton Chain Lakes. I want to live my life like a Jackson Pollock painting.
Comme si c'était pas déjà assez d'avoir 12 auteurs partout qui écrivent et prendre les textes et les rassembler et monter un spectacle et organiser la tournée et tout ça, les organisateurs trouvaient que c'était pas assez, il fallait que les textes soient encore accessibles, qu'ils fassent communauté encore plus. Donc il y a un élément de traduction aussi qui est très important, un élément très important de traduction dans ce numéro-ci.
Donc avec Sonia Malaborza qui était coordonnatrice du projet, on a tissé des liens avec plusieurs traducteur littéraire sur le territoire du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour faire en sorte que ces textes-là pourraient revivre dans une autre langue.
Au Nouveau-Brunswick, une des particularités de la province, c'est que c'est la première et seule, je crois, province officiellement bilingue au Canada. Donc, pour pouvoir avoir ou créer un espace de dialogue, ne serait-ce qu'entre les auteurs du projet, il y avait une dimension nécessaire de traduction pour faire en sorte qu'on puisse franchir la barrière linguistique pour mieux se parler. Et la traduction, donc, s'imposait d'emblée. On voulait aussi pouvoir faire découvrir des auteurs de la communauté anglophone ou francophone et vice-versa. Les auteurs et autrices autochtones allaient, pour diverses raisons, écrire en anglais plutôt que dans la langue de leur première nation. Et puis, donc, la traduction s'imposait de facto comme moteur de création pour permettre tous ces échanges-là.
C'est sûr que monter le spectacle, il y avait plusieurs petits défis. Le premier défi, c'était comment est-ce qu'on présente des textes en français dans une communauté anglophone et vice-versa, comment est-ce qu'on présente des textes dans l'autre langue, dans la communauté qui l'accueille. Donc là, on s'est dit, avec Philippe-André Colette, on devait projeter le texte dans l'autre langue sur l'écran derrière, en même temps que l'auteur lisait le texte dans la langue originale. Donc, de cette manière-là, je crois qu'on a quand même réussi à battre les frontières linguistiques et à créer des rapprochements.
Ce qui, pour moi, est à la fois la plus grande beauté et la plus grande misère aussi de la traduction littéraire, c'est que c'est avant tout une écriture à contrainte. Alors, on doit à chaque fois, devant chaque test, c'est un lapsus, devant chaque texte, on doit continuellement se réinventer soi-même en tant qu'auteur, parce qu'un traducteur est un auteur. Et on doit aussi, tu sais, on doit tenter un équilibre impossible entre dire tout ce que dit l'auteur devant nous dans une autre langue, réussir à tout dire sans rien oublier, mais aussi réussir à faire en sorte que le texte qui sort de ce travail-là soit agréable à lire. Puis soit, non pas dans notre style à nous, mais un style qui se rapproche le plus possible à celui de l'auteur du texte de départ. Donc, c'est une grande écriture à contrainte, très créative, avec beaucoup de possibilités, mais reste qu'on est à l'intérieur d'un cadre très bien défini quand on traduit.
I'm picking blueberries with the Syrians. It is hot, windless. We kneel in scratching grass in the cricketing mid-morning. We assured the women that no men would be in the field, but both wear long skirts and black capes and keep their heads covered with hijabs.
Je cueille des bleuets avec les Syriennes. C'est une journée chaude et sans vent au milieu de la matinée. Nous sommes agenouillés dans l'herbe piquante et autour de nous, les criquets chantent. On leur a promis qu'elles ne croiseraient pas d'hommes dans le champ, mais toutes deux sont vêtues d'une longue jupe et d'une cape noire et portent un hijab.
The two women spoke rapidly to one another in Arabic, and the car tires scrabbled on loose rocks as the lane wound up into the poor soiled field where apple trees spread their branches over wispy grasses, goldenrod, and the sprawling, leathery-leaved blueberry bushes.
Les deux femmes s'étaient échangées quelques propos rapides en arabe. Les pneus de la voiture dérapaient sur les roches meubles du chemin qui remontaient jusqu'au champ, au sol pauvre, où des pommiers déployaient leurs branches au-dessus des herbes effilées, des verges d'or et des plantes de bleuets aux feuilles coriaces qui s'y étendaient.
mon ancêtre Prudent avait agi comme, avait travaillé comme traducteur à Port-Royal avant la déportation. Puis, selon les livres d'histoire, parce que je ne le connaissais pas. Puis, il avait mal fait sa job parce qu'il n'aurait comme pas compris que it wasn't happening. Puis, il l'avait chupé dans la cale, lui, tout, tu sais.
Tu n'as fait auparavant des traductions,
ouais, aussi. Oui, c'est ça. Ça fait que j'ai traduit le recueil de poèmes de Sue Goyette, qui c'est « Ocean ». De l'anglais vers le français. Fait que là, ben, j'ai fait une traduction de l'anglais vers le français acadien, en fin de compte. Mais j'ai fait comme trois versions du même texte, trois traductions. Okay. Puis la première était plus normative, académique, je sais pas trop. Puis la deuxième, c'était comme un entre-deux. Puis en fin de compte, la troisième, je me suis laissé aller... Comme si j'écrivais mes propres livres, là, dans ma langue, disons, dans ma langue littéraire, dans mon français acadien littéraire. Là. Il y a la langue qu'on apprend à l'école, dans les livres, et puis qu'on apprend comme ça de manière académique, mais il y a la langue aussi qu'on vit, hein, dans laquelle on vit chaque jour, en famille, même avec les amis. Ce français-là, il est très différent à la Baie-Sainte-Marie que le français d'école. Puis comme ici au Nouveau-Brunswick, les Acadiens au Nouveau-Brunswick, les Acadiennes parlent une langue à la maison, pas avec le même accent. Ils n'ont pas l'accent de la baie, mais quand même. Mm-hmm. Puis ils vont apprendre un autre français à l'école. Un français, il y a un grand écart souvent, les deux. Comment tu arrives à traduire cette chaleur-là du vécu, de toute ton expérience humaine? Parce qu'il y a beaucoup de ça dans la langue, on s'en rend pas, dans la voix surtout, en poésie, tu sais là.
Oui.
C'est pas Emmanuel de Kia, ça fait. Comment tu arrives là, à cette zone-là, disons, sans passer par. Sans écrire dans ta langue la plus intime, la plus. Qui t'es la plus chère, ou je sais pas.
Ta version préférée de tes traductions.
C'est celle que j'ai fini par publier, là, qu'on a publiée. C'est la. En français acadien, mais c'est. C'est ça, c'est des choix, ça fait selon moi, ou. Je me dis, toute part, c'est que faut rester, ben moi en tout cas, faut que je reste proche de la source, c'est là. Puis ma source est différente de la source des autres, puis c'est un petit peu ça le projet de faire communauté, c'est, oui, faut se retrouver, il y a comme une rencontre à faire, mais cette rencontre-là, comment est-ce qu'on la fait? On a-t-il l'intention de créer un melting pot, puis comme se rencontrer au Walmart, puis juste se dire, OK, ben that's it, that's all. Okay, il n'y a rien de méchant là, parce que c'est moins cher à Walmart. So, ou si, comme, je sais pas, comment est-ce qu'on fait ça? Fait que c'est sans se négliger, sans perdre l'essence de qui on est.
Puis en fait, c'est intéressant parce que si tu traduis, puis tu le fais comme tu l'as fait, que tu as finalement opté pour une version qui était plus acadienne, ça fonctionne parfaitement parce que le but, c'est communiquer. Si tu voulais communiquer ce texte-là aux gens que tu connais qui s'expriment dans la langue acadienne, mais la meilleure façon de communiquer ça, c'est d'écrire un langage que les autres comprennent.
Ben oui.
Parce que plus tu écris de manière académique ou soutenue ou
c'est non-langue, c'est pas une langue poétique, c'est un code, c'est un outil, c'est un passeport, c'est une utile aussi.
Si tu veux être comprise par 100% des francophones, bien, il faut que tu utilises des mots que 100% des francophones utilisent. Donc, le principe, c'est d'enlever toute régionalité, puis tout ça. Puis aussitôt que tu l'enlèves, ben là, tu perds ton public immédiat qui n'a rien à foutre peut-être d'avoir un texte écrit comme « Ah, la poésie, il se prend pour qui? » ou
Mais c'est, moi, je propose que le texte va peut-être même pas... J'aime pas le mot, là, mais comme raisonner, il n'y aura pas de pou à ce texte-là. Selon moi, je me dis, tu sais, même les poètes qu'on célèbre, les poètes du canon littéraire, tous les auteurs, point final, il n'y a personne qui écrit dans une langue, dans cette langue académique-là qu'on imagine comme étant réelle, comme il n'y a, aucune... Tu peux maîtriser une langue tout ce que tu veux. Mais la littérature n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise d'une langue. Ça a à voir avec un amour, peut-être, une exploration comme totale, comme
une obsession. De la maîtrise même.
Ben oui, c'est l'inverse. Picasso disait ça, n'est-ce pas? C'est comme en art visuel. C'est, tu désapprends tout ce que tu as appris de cette part. C'est faut que tu... Le travail de l'artiste, c'est de redevenir un regard comme d'enfant. Tu sais, find the wonder.
Bébé de check-moi sur le dos, la famille Bossé-Tourigny, Motmix Franco-Brayon-Sasquois prend le train et diagonale la province. De nord-ouest en sud-est. Et terminus s'établit à Moncton, capitale du Chiac. Un dialecte supposément mal famé, qu'importune aucunement les nouveaux arrivants. Double, double, toil and trouble, quelques mois plus tard, fire burn and cauldron bubble, je vois le jour sur la rue Macbeth. En ce Moncton, gouverné par Leonard Jones, un maire moyenâgeux aux opinions cornues, incapable de voir plus loin que ses préjugés. Me voilà gros bébé ouin ouin dans une ville qui n'a pas rapport whatsoever avec ni l'un ni l'autre de mes parents. Où chaque tikid passe ses dimanches à grimper son arbre généalogique avec ses mémères pis ses pépères pis ses mononcles pis ses matantes. Où tout le monde, peu importe sa classe sociale, porte fièrement sa cicatrice de la grande dérangeaison. Où il y a une étoile pour Gabriel, pour Évangeline, pour Angèle Arsenault, pour Jackie Vautour, pour Louis-J. Robichaud, pour n'importe qui vient des sites, qui porte le nom puis qui a fait de quoi avec sa vie. Puis moi là-dedans, avec mon patronyme qui fit pas, Bossé. Un nom qui figure pas sur la liste de présence à Grand Prix. Pas de pedigree, aucun stigmate, pas acadien, pas québécois, pas Brayon, pas Fransasquois, pas même francorien. Qu'est-ce que tu fais ici, Pilgrim?
Ici à Moncton, on est chanceux parce qu'on a pu, on a quand même un réseau très important d'accueil des nouveaux arrivants. C'est le CAFI. Il y a Magma aussi. Je pense que c'est l'association, les deux associations culturelles d'accueil des nouveaux arrivants qui sont très actifs et qui servent un peu de point de rassemblement de personnes issues de diverses communautés qui décident de venir s'installer au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi l'Université de Moncton, par exemple, et UNB, qui accueillent beaucoup d'étudiants internationaux qui décident de rester pour toutes sortes de raisons au Nouveau-Brunswick. Donc, on est passé par là pour aller chercher des nouvelles voies, comme Chili Petit-Jean.
Marchons, marchons, marchons unis pour le pays. Pour les ancêtres. Ainsi, appris à l'école, ce team est machinal, omis de sens à un jeune haïtien dont la passion est ailleurs et son avenir sur une terre étrangère. Le drapeau en colère, fatigué de donner vie à des rues mal entretenues, des marchés quabos à regorger d'enfants orphelins mendiants et criminels, se dit se délaver de son bleu et de son rouge, tissé par Catherine Flon à l'époque où la rage de se libérer des chaînes et du maître Machiavel était à son paroxysme. Encore pense-t-il paradoxalement que, même si Haïtien paraît se voir quelques bâtons dans des ailes, il a toujours été esclave dans la tête.
La première fois que j'ai entendu l'ensemble des textes sur scène, ça a été une confirmation qu'on avait réussi à donner de l'espace à diverses perspectives puis à une variété de voix. Aussi. Il n'y a pas deux textes qui sont pareils, il n'y a pas deux styles qui sont pareils non plus. Et pourtant, magiquement, de manière qu'on ne pouvait pas mesurer, qu'on ne pouvait pas forcer, ça finit par donner quelque chose qui se tenait et qui se tenait dans une unité vraiment intéressante.
C'était quand même quelque chose d'impressionnant parce que chaque auteur parlait de la communauté ou de son... une impression de la communauté, sa perception de c'est quoi une communauté. Et d'avoir 12 auteurs qui livrent les uns après les autres leur perception de c'est quoi la communauté, comment est-ce qu'ils définissent la communauté, c'était très impressionnant pour un public. Pour moi, en tant que public, j'étais comme, OK, wow, il n'y a pas une version, il n'y a pas une vision. Tout ça, ça se ressemble, ça se confronte. Mais en même temps, après le spectacle, là, j'étais habité par plein d'images, plein d'impressions.
Mouillé, jusqu'au mot. Une production de la Revue acadienne de création littéraire, Ancrage. Animation, Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage, Jonathan Saunier. Musique, Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alpha Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Dupérault. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires, sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.